Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Fréquence Mutine et de Radio U. Pourquoi je prends un accent du sud, monsieur Flash Info? Je ne comprends pas.
À chaque fois que tu es un peu perturbé, tu prends toujours un accent terrible, donc je ne sais pas pourquoi. Bonjour
c'est...
Domina, bonjour,
bonjour
à toutes et bonjour
c'est
à
sans
tous.
Doute cela. Bonjour Antoine.
Et bonjour à vous deux, mais il te va très bien cet accent.
Ah bah je vais pas le garder longtemps. Moi je vous le dis, aujourd'hui c'est Sud Radio, c'est l'émission en commun sur les deux radios en direct, à la fois sur le 101.1 et sur le 103.8, les deux fréquences, et puis derrière. Vous réécouterez ça en podcast. Si vous n'êtes pas là en direct, une émission riche en invités parce que nous allons parler de plein de choses très variées. On parlera d'une expo qui a lieu actuellement au Capucin et qui se prolonge jusqu'à avril 2021. Nous parlerons hip-hop brestois avec la sortie d'un disque et nous aurons deux invités. Et puis on va démarrer cette émission avec un projet atypique, un projet intéressant, un projet au long cours hein, qui est mené entre la carène, la mutualité. Il n'y a rien dans le casque, alors attends, on va faire les petits réglages. Où c'est que tu es caché, toi? Autrement, t'enlèves le casque. Si t'as rien, c'est pas très grave. On peut faire sans. Patrick Roux, c'est ça. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est ça, Patrick Roux.
Comment ça va? Bienvenue hein, dans les locaux de provisoire de nos radios.
Comment ça va avec cette annonce de reconfinement?
Ah bah, oui.
C'est un peu compliqué.
J'imagine bien.
Mais assez content de l'aboutissement du projet dont on va parler, avec la prestation La Carène.
Voilà, un travail, je disais, au long cours, parce que c'est mené depuis deux ans, mais on va replacer un peu le contexte. Tu représentes la mutualité?
Alors, je représente la mutualité, je suis directeur d'établissement dans le médico-social, établissement qui accueille du handicap.
Deux établissements, c'est ça?
Deux établissements. Oui.
Dirinon et Ploudaniel?
Alors, le foyer Jean Couvanier à Ploudaniel, le foyer Ménez-Roy à Dirinon.
Ça fait combien de temps que tu gères ces deux établissements?
Ça s'est fait par étapes, mais ces deux établissements depuis trois ans.
Voilà. Et donc, il y a dans ces établissements donc, qui accueillent un public donc, qui a des handicaps?
Alors, nous accueillons des personnes adultes, hein, en tout cas dans les deux établissements que je dirige, donc des adultes ayant un handicap moteur et de naissance. Et la mutualité gère un certain nombre d'établissements sur les deux départements, le Finistère et le Morbihan. Et nous avons une quinzaine d'établissements riches et variés.
Oui, c'est ça.
De l'ESAT aux établissements pour enfants.
Et aussi pour les personnes âgées, il y a plein de choses.
Alors,
qui sont...
il y a une filière personnes âgées également.
Et je crois que la mutualité, ça existe depuis 1905, si je ne dis pas de bêtises.
Ça, c'est le code de la mutualité, effectivement.
Le code de la mutualité.
Le code des assos, c'est en 1902, je crois.
Donc voilà, c'est un service vraiment important pour la société et qui existe depuis bien longtemps. Et donc, au sein de ces foyers que tu te représentes, il y a évidemment beaucoup d'activités qui sont proposées. Alors, c'est des activités qui servent évidemment, j'imagine, aussi à créer une dynamique, à créer aussi de l'activité culturelle, l'activité à tous les niveaux. Et donc, il y a cette collaboration avec La Carène depuis deux ans sur ce projet-là.
Alors, nous sommes en partenariat avec La Carène depuis le début.
Depuis le tout début.
Depuis 2007, c'est ça, 2008, à l'ouverture de l'établissement. Effectivement, nos établissements, nous sommes dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, on va accompagner sur des projets sportifs, sur des différents ateliers, mais également la culture. La mutualité est attachée à l'inclusion, et l'inclusion à différents niveaux. Et nous avons travaillé sur la culture depuis déjà plusieurs années, en créant une commission culture au sein de la mutualité française 2956. Où il y a un représentant culture de chaque établissement au sein de cette commission. L'objectif étant de soutenir tout ce qui touche à la culture dans les établissements. Et alors notamment en soutien d'ateliers culturels dans les établissements par la formation des salariés. Comme j'aime à dire, on est très bons AMP, très bons aides-soignants, très bons médecins, très bons directeurs, mais souvent des mauvais danseurs ou mauvais chanteurs ou mauvais musiciens. Donc nous avons pu faire des formations sur la danse, sur la musique, sur du théâtre, pour permettre aux salariés d'être plus à l'aise sur ces types d'activités.
Pardon.
Donc c'était le premier axe de la commission culture. Et puis le deuxième, c'était aussi d'accompagner la création artistique. Et donc là, La Carène s'est bien positionnée comme partenaire, notamment, dans la mise en place de différents projets. Donc ça fait déjà plusieurs années que nous sommes en partenariat avec eux.
Avec donc les résidents qui travaillent, qui créent sur différentes esthétiques. Et là, le projet dont on va parler, qui est mené notamment avec une association lyonnaise qui s'appelle Kogumi.
Kogumi, tout à fait.
Donc, et des artistes locaux, parce qu'il y a François Joncourt. Il est déjà venu nous en parler d'ailleurs, parce qu'il nous a fait passer un chouette morceau. Hein. C'était Corona Fichier, il me semble, un tube
c'était
incroyable.
Le tube du confinement.
Voilà. Ah, c'était vous les responsables.
C'est ça.
Je tiens à préciser que la loi sur les assos, c'est comme la laïcité, c'est 1905. C'est juste comme ça.
Voilà.
Merci pour cette précision.
Et donc, du coup, comment on décide de l'intérêt d'un atelier ou d'un projet? Est-ce qu'il y a des critères qui sont importants pour vous? Comment
vous
on
avez
fixe
une petite
ça
demi-heure devant vous?
Oh, ben, pour,
alors,
on,
déjà,
on a un peu de temps,
déjà l'historique de la mise en place de cette commission culture au sein de la mutualité. J'avais mis en place dans un établissement pour enfants un atelier musique sur la période d'été. Donc j'avais fait venir un musicien et au terme de la semaine, il est venu me voir et il m'a dit il y a moyen de faire quelque chose et d'aller plus loin, de faire un disque. Donc le projet s'est mis en place. Donc j'ai contacté la Carême que j'ai eu l'occasion de croiser. J'ai parlé de ce projet, ils étaient emballés. Et au fil de l'eau, les morceaux se sont créés, essentiellement sur de l'atelier lecture pour les personnes, parce que la maîtrise des instruments est vachement compliquée, notamment dans le handicap moteur. Et on a été jusqu'à faire une scène aux Vieilles Charrues, en 2007. Donc ça nous a là permis de dire que tout était possible. Et on a vu les usagers des établissements très impliqués et à être en capacité de pouvoir jouer devant un public de 5-6 000 personnes.
Voilà. L'apport pour eux, il doit être énorme.
Pour tout le monde, pour les salariés, pour les usagers. C'est une sacrée ouverture.
Pour le coup, là, on parle de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est de fait, c'est un peu les derniers spectacles de la Carène avant, on ne sait pas quand, mais c'est comme ça. Le Kraken, donc, qui a deux représentations, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Donc, ce travail qui était mené donc, avec des usagers du foyer d'Irinon, si je ne dis pas de bêtises, plus François Joncourt et donc cette association lyonnaise Kogumi. Quel est l'axe au démarrage et qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, nous proposer?
Alors, je reviens sur l'histoire, je le fais rapide. Donc, le partenariat avec la Carène, ça a été soutenu aussi par les tutelles, l'ARS et la DRAC, par des subventions, des appels d'offres. Donc, ça nous a aussi mis en confiance sur nos projets. Donc, c'était il y a 6-7 ans, nous avons mis en place une résidence d'artistes dans un établissement. Et les usagers pouvaient voir aussi les répétitions, ils ont pu travailler ensemble. Donc ça, c'était un des premiers projets que nous avons pu avoir ensemble. Et ensuite, nous avons créé un spectacle qui s'appelait « Ferme les yeux et regarde », avec notamment Erwan Asset, toujours en partenariat avec la Carène.
Le commandanceur brestois qu'on connaît bien.
Voilà. Et donc, spectacle qui a été aussi très riche, fort en émotions et en qualité artistique. Et là, on a réfléchi, parce qu'on voulait continuer à travailler ensemble, et puis d'aller au-dessus sur un projet, de pouvoir les laisser, leur permettre d'être autonomes dans la création artistique, d'où l'idée de créer des instruments de musique. Parce qu'effectivement, jouer de la guitare, c'est pas simple. Et l'idée, c'était de créer ça. Donc, projet ambitieux, mais auquel on est arrivé au bout. La consécration, ça va être ce soir.
Alors, le Kraken, c'est quoi? C'est une créature mythologique, fantastique, que les marins redoutent, craignent. C'est quoi? C'est une créature tentaculaire d'où on peut parler peut-être de peut-être pas davantage de la forme, peut-être du fond aussi.
Alors, c'est plus simple que ça.
Oh la vache, bah oui, c'est toujours compliqué. Moi.
Il y a des instruments, donc c'est la musique assistée par ordinateur, donc il y a énormément de câbles. Et donc vous le verrez sur scène ce soir. Les câbles nous ont fait penser à une pieuvre, d'où le kraken.
Les tentacules.
Voilà, c'est ça. Le lien avec tout le monde. Parce qu'on voit bien que c'est certes des personnes en situation de handicap, mais aussi c'est une association lyonnaise qui a créé ces instruments, des artistes, une structure qui est aussi dans ce projet, la mutualité française. En fait, c'est ouvert sur beaucoup d'horizons.
Ces instruments qui ont été créés, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que c'est, on veut dire, dans l'optique juste de créer ce spectacle-là, ou est-ce que derrière, il peut y avoir une utilité, je ne sais pas, pour d'autres ateliers, pour une pratique au quotidien?
L'objectif, c'est ça, c'est de pérenniser l'utilisation de ces instruments, de pouvoir permettre de les utiliser Bah, au quotidien ou ponctuellement. Alors dans un premier temps, il sera nécessaire d'avoir un accompagnement parce que c'est un instrument de musique, ça vient pas comme ça. Même si ça semble simple, il y a du travail derrière. L'objectif, ouais, c'est de diffuser et de mettre à disposition à d'autres établissements ou à d'autres structures cet instrument.
Est-ce qu'ils ont des noms bizarres? Parce que quand on crée des instruments, on peut peut-être leur donner des noms, tu sais, comme le sous-bassophone ou enfin, des fois
le gaffophone.
Ouais, voilà.
Bon, on y réfléchira, mais vous avez des idées, donc on va vous solliciter.
Faut pas hésiter.
On n'est pas cher en bière.
En cracane non plus.
Est-ce que vous avez eu déjà justement des demandes de prêt de cet instrumentarium?
Alors, Elisabeth me disait qu'il y avait une structure qui était intéressée. C'était l'objectif aussi de ce concert ce soir, c'était de montrer les capacités et l'intérêt de cet instrument. Hélas, la jauge est réduite à 40, mais on va communiquer, et ça sera aussi le travail de tous pour présenter cet outil. Alors déjà, au niveau de la mutualité, j'ai des demandes sur les établissements de ma structure.
C'est l'occasion peut-être d'avoir des images aussi, filmer ce spectacle ce soir, parce que c'est aussi, donc il y a cette création d'instruments, et puis il y a aussi le fait de les faire sonner tous ensemble. Il y a ce travail de composition et travail de groupe derrière. Oui. Ça impliquait combien de personnes, du coup, au total, qui vont jouer ce
Alors,
soir?
On a identifié 5 personnes ont été intéressées et en capacité aussi de travailler sur le long terme, parce que c'était un projet d'un an qui a duré 2 ans à cause de ce Covid. Donc c'était des personnes qui étaient nécessairement hyper intéressées et qui devaient être impliquées sur le projet.
Ils sont dans quel état d'esprit
et
pour ce soir?
5 personnes qui sont depuis le début. Ouais. Donc il n'était pas question aussi de changer qu'il y ait cet accompagnement.
Et dans quel état d'esprit sont-ils?
Alors je ne les ai pas vus parce que j'étais occupé ce matin avec ce confinement. Mais j'ai eu des retours des collègues hier soir. En fait, ils ont découvert l'instrument finalisé, parce qu'on travaillait avec des protos jusqu'à maintenant. Ils étaient ravis. Et puis, dans les conditions de la carène, c'est super.
Alors, ça se passe sous le dôme, si je ne dis pas de bêtises.
Sous le dôme, c'est dans ça. La grande salle, avec une sono qui est magnifique.
Voilà, avec des enceintes de partout, ça va être quelque chose d'assez unique et incroyable.
Donc, qu'on va filmer, qu'on pourra diffuser pour les personnes qui ne pourront pas venir.
Ça donne envie déjà de pousser le bouchon encore plus loin, parce que si j'ai bien compris, ça monte un petit peu en gamme chaque projet qui se met en place.
Évidemment, et on a invité toute l'équipe d'Astropolis ce soir, avec qui on travaille déjà, donc qui va, je pense, les signer dès 19h30, 20h ce soir. Mais on travaille déjà avec eux, ils connaissent le projet, et il y avait une présentation de ce projet lors d'une fête qu'ils font sur l'hiver, là, c'est Vive la fête.
Oui.
Et ils avaient pu montrer l'état d'avancée du projet.
Voilà, en tout cas, ça va être chouette. Alors, je suis pas sûr qu'il reste des places pour ce soir, il me semble.
Alors, j'ai bien peur qu'il y en ait, parce que j'ai des désistements suite à l'annonce d'hier, des personnes qui sont pas très à l'aise avec la situation sanitaire.
Eh ben, c'est une info qu'on peut passer, qu'on peut relayer sur nos radios, évidemment. Si vous voulez vous contacter la Carène directement, c'est le plus simple, pour ces billetteries, donc pour ce spectacle. Il se dure combien de temps?
Il va durer une demi-heure et puis après il y aura un échange avec le public sur la présentation du projet et différentes questions.
Alors moi je suis très curieux, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ces instruments, quelle forme ils ont, parce qu'on parle de musique assistée aussi avec de l'informatique, mais ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux par exemple nous un peu détailler un de ces instruments imaginés par ce collectif, cette asso lyonnaise?
Je les ai découverts à l'instant. Mais j'ai testé les protos. En fait, c'est des petits boîtiers sur lesquels ils peuvent agir soit avec des boutons, soit avec des modulateurs, soit avec des boutons marche-arrêt, avec des sons qui sont des samples, qui sont enregistrés et ils peuvent jouer sur l'intensité.
D'accord.
Et donc, alors moi, je ne suis pas musicien de base, mais j'ai pu me tester lundi. Je me suis bien amusé avec François.
J'imagine qu'il y avait sans doute une volonté de tout le monde de laisser un peu de place à l'improvisation, parce que ce genre d'instrument s'y prête. Ou il y a vraiment un gros travail d'écriture.
L'idée, c'était de donner une liberté. Et c'est l'objectif aussi de ces instruments, de leur permettre de créer. Donc maintenant, là, ils auront toute liberté de pouvoir... ils auront en tout cas l'accessibilité à la création artistique avec cet instrument. Et ça, c'était vraiment notre objectif, et de leur permettre ça, de s'exprimer.
Alors tu disais que ça a été prolongé à cause du confinement. Alors je ne me rappelle plus trop, mais quand François était venu nous présenter ce titre Corona fait chier, lui avait bossé, je crois, pendant le confinement sur le projet.
Alors que on bossait avec François sur le projet, le confinement est tombé, donc j'ai contacté François. L'idée, c'était de faire le hit du confinement. Donc on lui a envoyé des petites bandes son qu'il a remaniées de chez lui. Et voilà, il en a fait des morceaux dynamiques et assez rigolos pour aussi changer l'état d'esprit par rapport à cette situation.
On trouvait ça tellement bien qu'on aurait bien vu ça, hein, je sais pas, sur un single, ça aurait été rigolo. Puis en plus, il va redevenir d'actualité.
Voilà.
Là, terriblement, à une vitesse grand V. Est-ce que, là, on a compris, c'est quelque chose de très spécifique, c'est cette collaboration au long cours avec la CAN, avec des artistes locaux et donc avec des usagers, donc des foyers. Est-ce qu'il y a des projets équivalents qui sont menés, par exemple, avec le foyer de Ploudaniel ou avec d'autres dans la région?
Avec d'autres partenaires?
Oui.
Oui. Comme je disais, on n'est pas que sur la culture, on travaille aussi sur le sport. On essaie en fait de travailler l'inclusion au maximum et voilà, d'être intégré à la vie normale. Voilà. Il n'y a pas de barrière, honnêtement. On ne sent pas de barrière. Quand il y a les bons projets, quand il y a un état de confiance et une volonté de faire, ça avance.
Voilà, bon, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment tip-top. Alors, on rappelle, a priori, il resterait des places pour ce soir.
Surtout pour la session de 19h.
Surtout pour la session de 19h. Donc, vous allez sur le site de la CAREN, vous pouvez prendre vos billets. N'hésitez pas, profitez-en, parce qu'après, vous allez rester coincé un moment sans spectacle. Donc, l'occasion est belle.
Et au-delà que ça soit le dernier spectacle de la CAREN, ça va être un magnifique spectacle.
Qui
ça,
plus
je vous
est, dans un cadre assez atypique. Hein.
Pour attirer le public, c'est gratuit.
Oui, voilà. Une instrumentation atypique, un cadre atypique, un concert unique. Voilà. Donc, que demander de plus, franchement, hein. Ça donne envie d'y aller. Et donc, on note, hein, surtout à 19h, il y a la séance de 17h, elle va...
Il reste quelques places.
Quelques places, mais ça va aller très, 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 très vite. Alors, on aurait pu passer un extrait musical, mais bon, on attend le CD, on attend l'album, hein.
Je viendrai vous en parler,
voilà,
avec François.
Qui sortira peut-être le projet suivant. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose comme ça qui soit gravé aussi dans le
marbre. Après, l'idée,
ce
serait plutôt de faire des spectacles vivants, faire de la scène.
D'accord.
Voilà.
Mais bon, avec ce projet, le faire tourner un petit peu.
Comme je disais, avec Astropolis,
oui, par exemple,
et des ouvertures.
Ou d'autres. Parce que c'est vrai que ça peut voyager. Et ça peut être une belle opportunité. Et ben voilà. Et ben en tout cas, moi, je vous souhaite de faire un très très bon concert.
Merci.
Ce soir, hein, et puis j'imagine qu'ils ont tous un peu les chocottes, François le premier. Ça va être chouette comme tout. Et si vous voulez vos places, ben vous n'hésitez pas. Il faut absolument donc passer par le site de la CAREN. Dépêchez-vous. C'est aujourd'hui ou jamais.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci de nous soutenir.
Merci bien. On va s'écouter une petite nouveauté musicale à un groupe qui s'appelle Maniac, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pourquoi je passe ça? L'histoire n'est pas très drôle, mais en même temps, elle me touche. C'est un groupe italien qui sort son album chez Beast Records. Vous allez voir, c'est plutôt rock, blues, sauvage. Mais il faut savoir que ce groupe qui devait tourner et tourner et tourner, ben, n'a pas pu tourner parce que les tournées ont été repoussées. Et malheureusement, le chanteur du groupe a entre-temps appris qu'il avait une très grave maladie qui fait que il ne tournera jamais. Et donc, du coup, c'est un petit peu en clin d'œil. Et c'est aussi une actu parce que l'album sort tout juste. Oh, Groupe italien, donc Maniacs, à l'instant, avec un album qui sort chez Blizz Records en nouveauté musicale. On change radicalement de style, d'ailleurs, dans cette émission où on va dans tous les courants musicaux et tous les domaines qui nous intéressent. Et puis, on accueille deux artistes, presque trois, il y en a un qui se cache là dans le coin, qui viennent nous présenter un disque qui sort tout juste, un disque de rap, mais de rap fait à Brest, en tout cas.
Et
on est content d'accueillir, bon, je vous appelle pour vos pseudos, hein, Reins et Gak. Bonjour messieurs.
C'est ça. Salut.
Bienvenue
sur
les ondes de Radio U et de Fréquence Mutine. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion de s'écouter un morceau, en plus avec un clip qui met Brest à l'honneur. Et ça, enfin, le Brest qu'on aime, en fait. C'est ça, c'est ça que j'ai envie de dire.
Avec plaisir.
Ouais, en quoi Brest est important pour vous? On le sent à travers vos textes.
Ouais, Brest est essentiel, même, je dirais. Super important. C'est le terrain de jeu, c'est tout ce qu'on voit, c'est l'horizon, quoi. Brest, c'est moi, je pense, c'est le truc qui m'inspire le plus, avec sa vieille gueule cassée, sa tête de poète là.
Et le mauvais temps,
enfin, ouais, d'ouf, le mauvais temps, ouais.
Bah, d'où le titre de ton album, non?
Ouais, pluie. Beaucoup inspiré par Brest, forcément, ouais. Forcément, ouais.
C'est quoi des tranches de vie, c'est une sorte de spleen permanent qui
c'est une ambiance globale qui parfois est un peu plus ensoleillée, c'est pas toujours un spleen, tu vois, mais c'est une ambiance globale, je pense, ce que cette ville elle dégage, je pense qu'on est tous hyper imprégnés de ça, que ce soit moi, Gak ou les autres gars qui rappent autour de nous, on est super imprégnés par ça, ouais.
Parce qu'il y a le collectif, ouais, on en avait déjà parlé à la radio.
Il y a le collectif Ecum Records qui est plutôt une asso et voilà, on est ensemble fort, quoi.
Voilà. Et l'homme de l'ombre à côté, là, qui est masqué, mais qui veut pas parler. Hein,
Monsieur Tao King, ouais.
Monsieur Tao King, undercover, qui vous accompagne.
C'est ça, qui nous suit, sévère, qui nous donne un gros coup de pouce. Et on le remerciera jamais assez pour ça.
Pour vous, c'est quoi? C'est une sorte d'accélérateur, non? Direct, ce genre de
soutien,
ouais,
complètement, là. Complètement, ouais, complètement. Ça débloque des choses, ça permet d'être plus axé sur la création, plus que sur le comment on va faire pour l'enregistrer, comment on va faire pour faire ceci, cela, financièrement, en fait, tout simplement. C'est le nerf de la guerre, quoi, en fait.
Ça vous dégage de toutes ces préoccupations un peu non artistiques, quoi.
C'est ça, c'est un putain de luxe d'avoir ce monsieur avec nous et qu'il nous fasse confiance.
Et ça fait longtemps que tu travailles avec Tao King, du coup?
Ça fait depuis 2017. On avait fait un concert, en fait, où on jouait avant lui et on s'était capté après. Il nous avait proposé de faire la première partie de Caballero et Jean-Jas au Vauban en décembre 2017, du coup. Et c'était une expérience de ouf. Et depuis, on est frérot, quoi.
Alors nous, là, c'est vrai qu'on n'est pas forcément de culture, enfin moi pour ma part, de culture hip-hop, mais néanmoins en travaillant à Mutine, on a des vieux, anciens animateurs de hip-hop, de la pas première génération, mais pas loin, je pense. Hein,
Pop, c'est Samir, hein, je crois d'ailleurs, Fred, que tu disais qu'eux, ils tenaient les murs. En fait, le hip-hop, parce que le hip-hop ne s'est pas créé en 2015, il y a quand même toute une histoire.
Bien
avec
sûr.
Tous les... tout ce qui s'est créé, enfin voilà quoi, Rap Attitude, enfin voilà, les gens comme Nab et tous les compagnies, la danse, le graphe et tout ça, est-ce que vous sentez un peu dépositaire de tout ça? Vous avez un peu de respect pour...
Entièrement.
Les anciens, si
ah,
je
mais
peux
complètement,
dire.
Complètement. Moi je suis avant tout un gros baiser de rap et c'est ma passion, c'est le rap. Et je suis un gros auditeur de rap avant toute chose, quoi. Même si je sais que, ben, j'essaye de... Je pense que mon rap à moi, il est trempé de pop un petit peu et il est accessible, je dirais, mais je reste un gros baiser de rap, vraiment. Ça reste la culture qui m'a le plus influencé, je pense. Donc bien sûr, c'est super important pour moi, tous les anciens et tout.
Bien tout entendu. Ce qui s'est passé quand il y a eu NTM qui a joué
bien sûr.
Donc Place de la Libre, enfin bon... C'était quoi, en 93, un truc comme ça?
J'étais même pas né, tu vois.
Bah, je suis même pas allé, tu vois. Ou Cat Killer, enfin, ou des choses qui s'étaient déroulées
ouais,
sur
sûr.
La salle des comptes de la mairie, puis des concerts à Pinfeld, 113, ça s'est mal terminé d'ailleurs, mais bon, tout ça. Là, il y a un côté positive attitude dans le hip-hop, même si on sait que c'est peace, love and unity, toujours comme slogan.
Ouais.
Est-ce que c'était l'esprit qui est là sur Brest?
Tu veux dire par rapport...
Hip-hop, rap.
Dans le milieu rap,
ouais,
toi
ouais,
je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a une saine concurrence, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se tirent vers le haut parce qu'il y a une émulsion, je trouve, ces dernières années, là, dans le Peura à Brest. Vraiment, ouais.
On a l'impression même que la région, même ciblée plus, ou à la région, le département, sont en train de bien monter, en tout cas d'acquérir des lettres de noblesse assez fortes d'attirer peut-être un peu plus les professionnels, parce que le public, il est là.
Mais, ouais, bien sûr, ouais.
Mais du coup, une sorte, en effet, de plein de jeunes artistes comme ça qui sont en train de pousser, mais des choses qu'on a peut-être jamais vu au niveau de la région Bretagne. Je ne sais pas, quelle est votre sensation par rapport à ça ?
Après, je ne suis pas sûr que ce soit inhérent vraiment à la Bretagne. Je pense que c'est surtout inhérent à la province, en fait, et qu'il n'y a plus besoin forcément de venir d'une très grosse ville pour arriver et dire je rappe, je raconte ma ville, je raconte ma vie, en fait.
Marseille, Paris, maintenant, il y a autre chose, quoi.
Voilà, il y a plein d'autres villes. Bon, ça fait quelques années déjà, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ultra présent. Je pense qu'on s'en fout un peu d'où tu viens, surtout, notamment avec Internet, quoi. Maintenant, n'importe qui peut s'exprimer et essayer de dire, voilà, j'ai mon univers, j'essaye de le présenter. Je pense que je suis pas sûr que ce soit inhérent à la Bretagne, en fait.
J'aimerais que tu revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, que ta musique était notamment un peu colorée de pop.
Ouais.
Ça, c'est quoi ? C'est héritage familial ? C'est des choses que tu as écoutées ?
Alors, j'ai beaucoup écouté d'autres styles que le rap, bien sûr. Et c'est aussi notamment... je sais pas comment dire, grâce à mon producteur, du coup, Protein Papi, mon compositeur qui fait toutes les prods, du coup, qui lui est un gros mordu de musique électronique, en gros, et qui a plus été bercé peut-être par le R&B et des choses un peu plus mélodieuses, je dirais, que le rap brut, quoi. Et du coup, ça fait qu'on s'est un petit peu retrouvés à mi-chemin tous les deux, pour faire un truc qui est un petit peu hybride parfois, je pense, entre des textes qui sont un peu chantés et du rap pur, en fait, quoi.
Alors, je me demandais juste, excuse-moi, dans tes inspirations, du coup, dans ta chanson 30-1, tu dis ouais. « J'ai mon côté Miossec ».
Ouais, bien
alors,
sûr.
Alors, est-ce que Miossec aussi t'a inspiré ?
Bien sûr. Rien que la figure de Miossec, ce qu'il représente pour Brest, en fait, je pense que c'est un des mecs qui nous représente le mieux en tant que Brestois, quoi. S'il a la gueule du Brestois, il trompe pas une seconde, quoi. Donc, Miossec, super important, bien sûr. Ouais.
Et tu sais pas, tu pourrais même l'inspirer, hein, parce que lui, il aime bien... Non, mais c'est vrai, parce qu'il aime bien aller voir tout ce qui se passe dans tous les styles, chez les jeunes artistes locaux.
Un jour, peut-être, j'espère.
Ben voilà, faudra provoquer la rencontre, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Ça pourrait être assez rigolo. Alors, il y a, on va dire, comme une très bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, la très bonne nouvelle, c'est la sortie de ce disque, évidemment. Et ça, c'est top. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, que vous avez bichonné. La mauvaise nouvelle, mais bon, c'est une bonne nouvelle provisoire, c'est qu'il devait y avoir un concert ce week-end. Mais évidemment, bon, maintenant, on va rester à la maison comme des glands, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il faut se dire juste que ça va vous laisser plus de temps pour envoyer encore plus le pâté, encore plus être prêt.
C'est exactement ça.
Parce que la date, de toute façon, se fera à un moment ou à un autre.
J'espère, ouais. On reste positif.
Ce disque-là, il sort en support physique ?
Non, pas celui-là, non. D'accord. Non. Pas encore.
Il y a des choses qui se font aussi, c'est les concerts à domicile. Est-ce que, pourquoi pas...
Peut-être. Après, moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'interaction avec les gens et ouais. Je la trouve peut-être un peu faussée à travers l'écran, surtout sur du rap, en fait, je trouve. Parce que, tu vois, techniquement, j'ai pas énormément de choses à montrer, je pense. Tu vois, je sais rapper, mais je suis pas comme un musicien qui va pouvoir montrer toute sa technique, l'étendue de son talent et tout. Moi, je pense que là où on est bon, c'est quand on est dans l'énergie, et l'énergie, c'est un truc qui se transmet en regardant les gens, les yeux dans les yeux, quoi. Donc je pense que c'est compliqué.
On va juste emmagasiner de l'énergie, en stocker, puis quand vous allez avoir la possibilité de la dégager sur scène,
ça va exploser.
Ça sera puissant.
Faudra faire gaffe, faudra rester loin.
Ça va envoyer. Alors oui, c'est vrai qu'on parlait de ce morceau 30-1 qui est comme le clip est assez génial aussi parce qu'on a une visite un peu nocturne d'un Brest qui est pas un Brest carte postale.
Hein,
mais en même temps plein de petits clins d'œil, hein, on voit Kim, on voit plein de têtes connues, puis comme ça des petits coins de la ville. Comment ça s'est fait, c'est sur une virée nocturne?
Ça fait super longtemps déjà que je voulais faire un morceau sur Brest et en fait c'est drôle parce que le morceau à la base il avait deux instrus, si vous voulez, je voulais faire un double morceau sur Brest et au final celle-là ça aurait dû être un peu l'outro du morceau et au final on s'est rendu compte que ce morceau-là était bien meilleur et donc on est parti que sur celui-là, quoi. Et après pour faire le clip, ouais, en fait on s'est dit faisons un clip sincère, quoi. Faisons un clip qui montre les soirées qu'on fait quand on va à Brest. On va tout le temps chez Kim, on va chez Kim. On va tout le temps tel appart. On détruit des apparts, on va détruire un appart. Voilà, c'était ça l'idée, quoi.
Spécial dédicace à tous ceux qui louent des Airbnb ou qui vont bientôt louer des Airbnb, sait-on jamais. Quoi, je fais une petite blague. Et donc, c'est pas le seul clip, on peut en suivre plusieurs d'ailleurs sur la page YouTube.
Ouais, c'est ça. Les plus récents sont sur la page YouTube, c'est ça. Et on espère, là, on devait en tourner un nouveau pour un des morceaux du projet. Et malheureusement, je pense que ça va être compliqué de tourner.
Ça va être quoi l'idée ? Ça va être de profiter encore de ce temps à la maison pour travailler, écrire, enregistrer, maqueter, peut-être pour un plus long album déjà. Ça va peut-être faire accélérer cette chose-là qui n'était peut-être pas la priorité pour vous.
Alors,
tout de suite
c'était quand même la priorité de rester super actif et d'envoyer de la nouvelle musique très bientôt. Ça restait quand même une des priorités. Donc de toute façon, à ce niveau-là, ça ne change rien. Moi, je continue d'écrire de toute façon. J'ai tendance à être un peu casanier quand j'écris, donc de toute façon, ça ne change rien à ce niveau-là. Et ouais, voilà, le but, c'est de produire de la nouvelle musique et essayer d'en envoyer rapidement pour être, entre guillemets, toujours présent, parce que dans le rap, ça va très vite, il faut toujours sortir des morceaux, être toujours présent, et quand ça se décantera, quand on pourra faire plus de concerts, etc., il faut qu'on soit en embuscade et prêt à dire « Regardez tout ce qu'on a fait, on est là, on est prêt, on est chaud, on est productif, on a la dalle de ouf ».
Est-ce que vous avez commencé à titiller un peu l'intérêt des pros ? Gilles et pros, c'est, je sais pas, les programmateurs de festivals, les gens qui pèsent un peu dans le métier, ben, des gens comme la Carène qui peuvent peut-être vous accompagner, ou des choses comme ça.
La Carène nous accompagne, on les remercie fort là-dessus, et on commence un petit peu, mais ça reste encore petit pour l'instant.
La route est longue.
La route est très longue.
Mais elle est belle.
Mais elle est belle et puis on a les bonnes chaussures. Donc,
ah ben voilà, c'est des chaussures de marche, de course
c'est
même,
ça, c'est
j'espère.
Ça.
Bon, on va s'écouter ce titre, 30-1. 30-1, évidemment, on l'a compris, ça fait 2-9. Hein. Ah, j'ai une question. Alors moi, je vais vous la poser maintenant, parce que je ne sais pas si on va continuer après. Est-ce que vous avez un rapport avec le graphe ou pas ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, non. Pas du tout.
Alors, je vous incite à aller voir une exposition qui est en place. Bon, bah là, vous allez attendre un peu, mais on va en parler après parce qu'ils sont là derrière nous. Qui est en place jusqu'au fin avril 2021, qui est autour des typos.
D'accord.
Et donc, les typos, forcément, ont aussi une histoire, un rapport avec le graphe. Et je pense que ça peut être assez inspirant parce qu'elle parle aussi pas mal de Brest.
Okay.
Et notamment d'une imprimerie qui s'appelait La PAM. On en parlera avec eux tout
ça
à
marche.
L'heure.
Moi, j'avais d'autres petites questions. Ah
bah vas-y, hein, si fais-toi c'est... plaisir, ouais, Antoine. Super. C'est vrai que t'es derrière tes ordinateurs, on t'oublie un peu aujourd'hui.
Non, il monopolise la parole, c'est fou.
Regarde, je débranche mon micro.
Quand il a commencé, on
l'a fait. Ça y est, boude.
Là, j'ai vu du coup dans ton nouvel album, là, t'as un featuring avec Shanty Vibes, qui est un autre rappeur brestois.
Ouais.
Est-ce que toi, s'il y a un rappeur avec qui t'aimerais faire un feat, ce serait qui ? Rappeur brestois ou même
avec
ou
Cédric.
N'importe qui ?
Avec Cédric, bien évidemment.
Eh ouais, non, tu rappes Cédric ?
Bah, je fais tout, moi.
Non, mais là, il a un flow de malade. Tu n'as jamais écouté les karaokés ? Il y a eu des karaokés,
bah ouais,
là.
Bah ouais.
Et il a fait deux trucs en hip-hop.
Vanilla Ice, je suis au niveau. Hein.
Je vais t'en donner
et
deux.
Et Will Smith.
En rappeur français, je vais t'en donner deux. Je dirais Samir Ahmad. Je ne sais pas si tu connais.
Non, ça me dit rien.
C'est de la balle. C'est un putain d'écrivain, vraiment. Et je kiffe trop ses textes. Et Kaaris.
Okay.
Juste pour le putain de décalage que ça peut être et comment ça peut être énorme.
Forcément.
Voilà.
Et j'avais une autre question aussi. J'ai vu qu'en 2019, tu avais gagné l'édition Bretagne de Buzz Booster.
Tout à fait, ouais.
Ouais, c'est un dispositif qui est mis en place pour valoriser les jeunes talents, les artistes émergents dans le hip-hop. Est-ce que toi, ça t'a ouvert des portes ou des opportunités ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, on a rencontré Savi, du coup, qui bosse avec nous maintenant et qui est un peu mon manager, en gros, et qui nous accompagne à fond. Et donc déjà ça c'est énorme
et qui fait des belles choses hein, avec
plein de
belles personnes.
C'est lui qui organisait notamment la soirée qui aurait dû avoir lieu demain en coprod avec la Carène bien sûr. Pardon, excuse-moi, redis-moi ta question.
Ouais, non, c'était si ça t'avait ouvert
ouais,
des portes.
Bah, oui, ouais, bien sûr, ouais, ça m'a ouvert des portes. Et puis voilà, là, normalement on aurait dû avoir la finale nationale ce mois-ci en novembre là.
Ah.
Et malheureusement compliqué.
Du coup,
on sait pas encore comment ça va se passer.
Et du coup, ton concert est annulé demain soir.
Ouais.
Est-ce que c'est un peu tôt peut-être pour dire s'il va être décalé ou.
Je sais pas.
Enfin, on espère qu'il aura lieu quand même. Mais
il aura
aussi.
Lieu. Attends, à la
un
Carène.
Autre jour.
Rappelons que la Carène, un concert n'est pas annulé, il est repoussé, il sera décalé. Ouais, donc il aura lieu.
Il est reporté.
Bon, voilà. On arrête alors. Super.
Si ça peut vous rassurer, c'est sûr et certain.
Ça nous rassure.
Et je suis pas de la Carène pour le dire, mais je peux l'affirmer, je pense, quand même. Assez facilement. Allez, c'est parti. 30-1. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci bon travail, bonne compo, tout plein de belles choses. On se revoit très
bientôt.
Merci
beaucoup. À bientôt.
On vient du cœur de la ville et on traîne en bande sur des kilomètres. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Poitou rôdent près des bistrots. On vient du cœur de la ville. Moi j'avais que le vent pour bercer mes rêves. On vient du cœur de la ville là où Clodo et Poitou rôdent près des bistrots. Ouais, j'm'aime, déambule dans le 30-1. Excès, j'ai encore réveillé le voisin. Ouais, j'm'aime, déambule dans le 30-1. Excès, 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 excès. REY
YNZ professionnel pour user mes godasses dans la Soudadada. J'écrivais du rap, j'avais 14 balais, mes premiers petits refrains ça faisait la 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 la. J'ai baisé des tapins, j'ai brisé mon cœur en brisant celui de toutes ces gentilles nanas. J'écoute vos rappeurs, ils me font ni chaud ni froid, ils écrivent de la merde, de très gros nanars. Bientôt sommet de la ville, évidemment j'en rêve. Alcool, volard, bagarre, tristesse, milliards poèmes. 30 jours depuis ce mois-ci, tout ce qui reste hors finira par moisir. On parle pas de paddle quand on parle de loisir. On parle pas d'être à l'heure, nous on parle de vieillir vieux. Ou pas, jamais de ceux qui marchent au pas. Bien sûr que non, trop de balles. Nous on agit, nous on l'ouvre pas. Hey, j'aime boire, j'aime pas faire la fête. J'aime croire, j'aime pas tout connaître. J'aime grave quand tu bouges ta tête. Avec Wam Reis, le fils de Brest. On vient du cœur de la ville et on traîne en bande sur des kilomètres. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Poitot rôdent près des bistrots. On vient du cœur de la ville, moi j'avais que le vent pour bercer mes rêves. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Poitot rôdent près des bistrots. Ouais, même déambule dans le 3-1. Excel, j'ai encore réveillé le voisin. Ouais, même déambule dans le 3-1. Excel, 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 excel. Des excès, gros vex, ça. Souvent le soir venu bourré comme un texan. Le succès en compte pas, stagné dans le sas. Vas-y, baisse les pouces, suis sur le vent. À mon oreille, trop brûlant, donc c'est mieux quand tombe la pluie. Au matin, le Nesquik, confiture de groseille. Premier rayon de soleil, et je pense à l'oseille. Ça calme pas ma trique, non. 30-1, c'est là d'où l'on vient. Hey, j'ai mon côté mieux au sec. 30-1, vraie zone des hommes. J'ai un pied qui prend l'eau et j'ai un pied au sec. 30-1, préviens tes voisins. Hey, que des excès. Molard craché dans la tempête. On vient du cœur de la ville et on traîne en bande sur des kilomètres. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Poitot rôdent près des bistrots. On vient du cœur de la ville, moi j'avais que le vent pour bercer mes rêves. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Poitot rôdent près des bistrots. Ouais, même déambule dans le 3-1. Excès, j'ai encore réveillé le voisin. Ouais, même déambule dans le 3-1.
Voilà, c'était Reigns à l'instant avec 30-1. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est tout beau et on vous le conseille fortement. C'est sur internet, hein, en plateforme numérique uniquement. Et on va finir cette émission avec, j'ai un peu teasé tout à l'heure, avec cette expo du côté de la médiathèque au Capucin, la médiathèque François Mitterrand. Expo. Porté par le collectif XY, présenté par le collectif XYZ, expo autour des typos. La preuve, c'est que ça s'appelle typo.
Alors, première chose, typographie, définition.
Attends, il ne se présente pas après ?
Ça va être l'occasion. Bonjour, allez. Je m'appelle. Ah bon ?
Vas-y.
Stéphane Hervé, Z.
Jean-Baptiste Amouel, X.
Et Guillaume Duval, Y. Bonjour.
Voilà,
bonjour.
Je vais m'y perdre hein, avec toutes ces lettres. Définition de la typo.
Z.
Oui, ce qu'on entend toujours par la typographie, c'est l'invention de Gutenberg. À travers cette idée de l'invention de la typographie par Gutenberg, c'est sa grande idée, c'est d'assembler des lettres les unes avec les autres pour pouvoir les imprimer et pouvoir réimprimer des choses en les remettant dans un autre ordre. Donc c'est vraiment ça, la typographie. Et à travers cet univers qu'est la typographie, qu'est devenue la lettre dans notre monde et toute l'histoire qu'on avait racontée autour de ça, on a essayé d'englober toutes les typographies, tout ce qu'aujourd'hui on appelle typo, c'est-à-dire typo quand c'est du lettrage sur un mur, aussi bien que quand c'est dans un manuscrit quand on écrit. Et donc on avait envie de parler de l'ensemble des lettres, de toutes les lettres, hein, un peu sous toutes leurs formes, mais sous cette appellation-là. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ce S. Ce pluriel qui du coup évoque un peu tout cet univers.
Alors, ce qui est assez marquant, parce que l'univers est vaste, hein, et on le comprend en fait assez rapidement quand on va voir l'exposition, qui est très riche, très documentée. Ça va des incunables, on démarre l'expo par deux ouvrages qui n'ont pas d'âge et qui sont sous une cloche en verre et qui sont issus, je pense, de collection de la bibliothèque de Brest.
Oui, c'est oui, pas le fond de la médiathèque, ouais.
Voilà.
C'est un prêt de la BNF.
Jusqu'à, évidemment, je parlais un peu de ce côté graphe et tout ça, l'un des choses beaucoup plus actuelles. Et on traverse aussi les décennies un peu, hein, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90. Et on apprend vraiment plein de choses incroyables. Moi, j'ai appris plein. Il y a tellement d'informations sur cette expo que je pense qu'on peut y passer une après-midi si on veut vraiment, vraiment essayer de tout noter, de tout retenir, tous ces termes que moi-même, je ne connaissais même pas.
On connaît souvent les concepts, mais on n'a pas le mot à mettre dessus, en fait.
Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est hein. Et moi, j'ai appris vraiment plein de choses. Ouais. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'avoue, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose qui soit beaucoup plus juste dans l'image et moins dans le texte. Et
c'était le but, en fait. C'était notre but. C'était de tout ce qu'on a aussi cherché, parce que voilà, on a cherché, on a écrit longuement, on a été corrigé longuement aussi. Mmh. Voilà, c'était d'être un peu bavard ou beaucoup bavard, mais par petites touches, en fait. Voilà, c'est aussi des choses que nous on a appris, voilà, ou ce qu'on apprend au jour le jour, et c'est ce qu'on voulait faire donner au public, enfin au grand public, entre guillemets. C'est un peu le but du collectif, de toute façon, c'est toujours de revaloriser un peu le patrimoine, qu'il soit brestois ou autre, et puis de essayer de transcender un peu la chose, et puis de le donner de manière voilà, je pense que la manicule, ce genre de choses, on ne le connaît pas, mais on voulait le faire partager, et je pense qu'on a assez bien réussi à le faire, en tout cas.
Le truc, en fait, c'est qu'on n'est pas, des historiens, on n'est pas... voilà, nous, on est plutôt artistes. Donc la vision qu'on a donnée, forcément, elle est un peu décalée, elle est contemporaine. On ne voulait pas rester dans le plan-plan de la frise chronologique de la typographie, avec un début et, entre guillemets, une actualité, enfin quelque chose d'actuel. On a essayé de mélanger ça de façon rigolote, visuelle, attractive, amusante pour les enfants, etc. Donc voilà, ça a pris la forme que c'est actuellement.
Avec des accroches visuelles justement qui alertent le regard et qui font en effet qu'on sort d'un côté très austère, parce que ça pourrait être austère comme ça sur le papier, mais ça ne l'est pas du tout, quoi. C'est ça qui est assez incroyable dans cette expo.
Ouais. Oui, ouais, voilà, tout à fait, Cédric. Il y a des grandes lettres énormes, surdémesurées, et de la toute petite, du tout petit caractère. Et on le présente de façon complètement diverse et variée. L'idée phare, en fait, c'est vraiment une idée de Stéphane, c'est de passer par la matière pour présenter cette exposition, à mon avis.
Ouais, la matière, c'est la base du c'est la colonne vertébrale de cette exposition, où on passe, on démarre aux incunables, en effet, aux ces premiers livres qui sont les premiers livres imprimés, jusque aux choses contemporaines qui sont les ordinateurs, les souris et les lettres numériques. Et on traverse toute cette histoire à travers la matière. Parce que l'homme, c'est toujours la matière. Il a toujours fait des choses avec des objets, avec de la matière. Et la typographie, c'est avant tout des objets, c'est l'être. Et donc la première matière, c'est le plomb. La seconde qu'on étudie, c'est le bois qu'on utilise parce que le plomb est trop lourd pour faire des grandes lettres. Pour faire des grandes affiches, il faut des grandes lettres. Et donc, on va utiliser du bois. Puis ensuite, on va imaginer imprimer sur du... Et là, c'est plus de la typographie, c'est du lettrage. On va imaginer dessiner sur des pierres. Et là, c'est la lithographie, tout ce qui a fait la fortune de la PAM. Puis ensuite, on passe à une époque qui est plus récente et qui est le plastique, l'invention du plastique, comment elle a entraîné toutes ces innovations autour de la typographie. Puis c'est l'arrivée de ce qu'on connaît tous aujourd'hui, nos ordinateurs qui nous permettent de choisir un caractère dans un menu déroulant, et ce qui est plus simple, mais qui est l'aboutissement de toute cette idée.
Pour nous.
Voilà.
Il y en a beaucoup quand même.
D'ailleurs, on voit même les ancêtres aussi de ces ordinateurs. Enfin, on voit le Minitel et tout ça. Il y a
Oui, il y a plein d'histoires autour de ça. Ouais.
Alors, histoire, le mot a été prononcé. Tout à l'heure aussi, on a parlé de, vous avez parlé d'imprimerie, de la PAM. Il y a Perron aussi, un artiste brestois qui a eu quand même une incidence sur tout ce qui était les traces. J'ai eu une exposition qui était géniale,
superbe.
Qui avait eu lieu au Musée des Beaux-Arts, là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec notamment Brest dans cette exposition?
Brest est au cœur de cette exposition, de par le fait qu'on voulait aussi mettre en avant avec Grégory Lebris le patrimoine de la PAM, qui est absolument gigantesque en fait.
C'est incroyable,
Incroyable. Tout simplement incroyable.
Là, on n'en voit qu'un tout petit bout. Hein.
Il y a des affiches, il y a plein de choses. Moi, j'ai adoré les étiquettes de vin, c'est ça ? Si j'ai pas de bêtises.
Oui, voilà, de vin ou de limonade aussi.
C'est incroyable.
Il a repéré le vin.
J'ai repéré le vin et le rhum. Il y a aussi le rhum.
Il y a aussi le rhum.
Mais bon, là, à l'horizon, il y a comme le port de commerce, donc c'est un peu compliqué.
C'est trop marrant. À Menton, il y en a une là où c'est Crarantec. Donc on voit bien que c'est une faute, il y a une faute dans le nom. Donc du coup, c'est rayé. Donc c'était les tests.
C'est le Sirojaki de Crarantec.
Et ça, c'est le test en fait.
En fait, ça, c'est un BAT, en fait. C'est une gouache qui est faite à la main. En fait, c'est pas les étiquettes qui sont... C'est les étiquettes qui étaient présentées comme des bons à tirer, enfin, ou des bons à rouler.
Les maquettes.
Et donc là, effectivement, oui, Carantec, bon, bah, c'est... Bon, et puis, c'est fait à la main, donc, bon... Et puis l'illustration, c'est magnifique. Elle est quand même en plus,
C'est magnifique. Ouais. Quand vous avez eu accès, justement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais accès à ce trésor qui est donc le fond, le stock, le sous-sol, les réserves de la PAM, est-ce que c'est ça qui a donné l'idée de créer l'expo, ou elle était déjà en création
En fait, on s'est, avec Stéphane, enfin le collectif XY, donc moi et Guillaume, enfin entre guillemets, et Z, le Z change à chaque projet. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir aussi être un peu bousculé dans sa pratique et dans le faire. Et avec Stéphane, on ne s'est pas rencontré sur la lettre. On s'est rencontré sur le Dazzle. Ouais. Voilà. On avait fait une expo au Musée de la Marine sur le Dazzle Painting, le Camouflage Razzle Dazzle. Et on s'est rencontré là-dessus à Carré.
Ouais, on a commis un mur de 60 mètres de long qu'on a peint en Dazzle. À Carré, et ça a été le commencement d'une collaboration, et c'est sûrement ce qui a donné l'idée, et c'est Grégory Lebris, le dirigeant de la PAM jusqu'aux dernières heures, qui lui a eu l'idée de nous associer dans cette idée de faire une exposition autour de la PAM, et l'idée a démarré comme ça, et ensuite voilà, la collaboration a bien prise.
Alors, c'est génial parce qu'en effet, on voit, vous avez sorti des vieilles machines, notamment de la PAM. On imagine qu'elles ont servi il y a 50, 60, 70 ans, des trucs incroyables. Non seulement on voit en effet l'évolution des typos, un petit peu selon les périodes, mais on voit l'évolution technologique aussi. Et ça, c'est génial. C'est incroyable.
C'est une histoire de technique. En fait, c'est presque bête. On va dire, de matière et de technique, mais aussi de d'art, puisque évidemment, on crée des caractères, on ne le fait pas de manière complètement béate. C'est tout un travail. Bon, nous, on n'est pas suisse, heureusement, mais bon, on essaie quand même de faire un peu de typographie. Mais c'est extrêmement difficile. Surtout aujourd'hui, en fait, on est dans un foisonnement qui est gigantesque. Qui est vraiment gigantesque, et ce qu'on essaye de présenter en fin de l'exposition, c'est le travail de ces femmes typographes, puisqu'elles sont souvent, le monde de la typographie, etc., n'est pas vraiment un monde très féminin, on va le dire, pour être clair, et on a eu à cœur de faire ces grandes lettres qui ont été créées par des typographes, des femmes typographes d'aujourd'hui. Et d'un peu d'avant, comme Margaret Calvert, qui a fait notamment tous les panneaux de signalisation routiers en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc voilà, il y avait tout ça qui était tout mêlé, on a essayé d'en faire quelque chose. Et bon, a priori, on avait un peu buté en touche pour... on va faire des petites anecdotes, des petites choses, mais apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon, c'est une expo un peu bavarde.
C'est vraiment chouette. À l'heure du numérique, où tout le monde fait tout chez soi, j'imagine que des entreprises comme la PAM, qui restait quelque chose d'assez artisanal finalement, ça doit disparaître, ça, non, au niveau national, où il y a la résistance, où c'est encore des choses qui vont durer dans le temps.
C'est plus une activité très, très économique, en fait. Et donc, on retrouve encore quelques endroits où on continue à faire perdurer, à faire fonctionner des machines comme les linotypes qui fondent du plomb, ou à faire marcher des machines typographiques où on peut imprimer des grands caractères en bois. Il y a encore des endroits en France où on en fait. Il y a le musée de l'imprimerie qui nous a d'ailleurs aidé pour la réalisation d'un petit film dans l'exposition qui explique comment marche une casse typographique, qui eux impriment encore de cette manière-là, mais c'est plus une façon économique en fait de fonctionner, donc ça a vocation un peu à disparaître. Les Anglais, les Anglo-Saxons, parce que les Américains aussi ont continué à faire perdurer cette activité et à faire encore des choses autour de ça. Il y a un côté vintage qu'ils aiment beaucoup, comme dans la peinture en lettres.
Oui,
c'est le bilboquet.
On le sent bien, le côté vintage, hein, parce qu'il y a un côté, c'est très lié à la pub, notamment, parce qu'il y avait, en effet, on le voit beaucoup à travers l'expo. Hein, c'est vrai que la PAM imprimait des affiches, des étiquettes, des stickers, plein de choses qu'on retrouve visuellement, vraiment, concrètement. Et c'est génial dans ce lieu d'exposition qui est... Moi, j'étais jamais allé encore dans le lieu d'expo de la médiathèque Capucin. Je trouve plutôt chouette, plutôt bien foutu. On rappelle que l'expo, d'ailleurs, est en place jusqu'au 31 avril 2021. Donc, vous inquiétez pas, là, si... 2022, même.
Ça va dépendre de la durée du confinement.
Voilà, bon, en tout cas, vous aurez tout le temps d'aller en profiter, d'aller la voir, parce que et puis même d'y retourner, parce que je pense qu'on peut y passer un peu de temps, quand même. Hein.
Bah, grâce à des prêts, enfin, de gentils collectionneurs, qu'on remercie ici aussi, puisque au-delà du fond de la PAM, c'est aussi c'est tout le patrimoine de chacun, entre guillemets, qu'on essaie de mettre en valeur aussi.
Les machines, les ordinateurs.
Voilà, c'est les autocollants.
Les autocollants.
Enfin, bref, histoire de. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu l'idée de la dernière vitrine, c'est que voilà, on est dans un monde complètement fou et numérique, et on entasse tout ce qu'on a comme déchets numériques, entre guillemets, déchets numériques.
Et c'est de la matière.
C'est que de la matière, et en même temps, c'est tellement irréel que bon, ça en est intéressant, pour le coup. Voilà.
Alors, le temps qu'on était hier à l'expo, beaucoup de gens, en tout cas, profitaient de cette exposition. Beaucoup de jeunes.
Il y avait des enfants aussi.
Ouais, il y a des ateliers, des animations, d'ailleurs, même au sein même de l'exposition, pour les enfants, des petits ateliers. C'est sympa comme tout, ça, avec...
C'est Y qui va pouvoir en parler s'il lâche un peu son crayon.
Est-ce qu'il en profite pour...
Oui, il y a quelques animations dont on... je ne devais pas être avec vous aujourd'hui puisqu'il y avait deux ateliers graffiti qui ont été annulés, malheureusement. Et sinon, à l'intérieur de l'exposition, il y a des jeux autour de la lettre, évidemment. Quoi. Dont le plus menaçant, je dirais, c'est bien la lettre anonyme. Donc, si vous avez un ennemi ou une belle-mère que vous n'aimez pas... Ben, voilà,
C'est le moment,
ouais.
On l'a compensé par la lettre d'amour.
Ouais, c'est toi, Rémi, qui voit, selon ta prose, hein, ça te concerne, et ça concernera la victime.
Des ateliers, oui, alors bon, un peu perturbé du coup, là, par la fermeture forcée, mais j'imagine que ça reprendra des réouvertures possibles, voilà, calendrier va être un peu bouleversé.
Oui, sans doute, après, pour l'instant, évidemment, comme tout le monde, on n'en sait rien, en fait, donc voilà, mais... normalement, il faut aussi. Normalement, en début d'année, on fera aussi des safaris typographiques.
Dans la ville de Brest, alors.
On l'a déjà fait. On a déjà créé un caractère typographique qui s'appelle Sans souvenir de Brest. On le fait déjà depuis. Ça fait combien de temps, Guillaume ?
Ça fait au moins 4 ans. Si ce n'est plus, ça fait peut-être bien 15 ans parce qu'on avait déjà.
Ouais.
À l'époque, on avait déjà. Avant que JB s'en aille de Brest et avant qu'il revienne, évidemment, on avait déjà commencé à travailler ensemble sur des lettres glanées sur la ville de Brest. On n'était pas allé très loin, mais on avait déjà.
On avait entamé quelque chose
autour de la lettre.
Et maintenant, c'est un peu un de nos projets phares, c'est un peu les safaris typographiques. Et on crée aussi des caractères typographiques qui sont liés à la ville. En fait, on se balade avec les habitants, puis on leur demande juste de lever le nez. pour moi, c'est un peu difficile ici parce que j'ai une grande vue sur le port, j'ai plein de lettres, il y a plein de trucs. Donc c'est hyper compliqué, plein de grues. Donc ça nous parle en fait. On était notamment accueillis à Vitry, Vitry-sur-Seine, pendant quelques semaines. On a fait un peu de Dazzle et un peu de Safari Typo. Beaucoup de Dazzle, beaucoup de Safari Typo. Et du coup, bah, là, on va enfin lancer le Vitriot, qui est le caractère créé avec les habitants de Vitry, qui sera disponible librement sur le site de la mairie de Vitry-sur-Seine. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'exporte et c'est assez simple en fait de dire aux gens, bah, venez, on va se balader une heure, puis lever les yeux, on prend des photos, on retravaille les caractères typographiques et en fait c'est un abécédaire, c'est un peu l'idée de Sans Souvenir de Brest au départ, c'était ça, c'était le B.A.B.A. du Brest. Bah, là, quand on voit la rue de Madagascar ou Bassam, etc., on se dit, bah, voilà, tout ça a été un peu perdu. Et bah, nous, on essaie de le garder un moment et puis de le retransmettre.
C'est un petit côté archéologue des temps modernes aussi, surtout en milieu urbain, ça, parce que c'est très lié justement au commerce, donc à des enseignes qui peuvent avoir disparu ou qui sont cachées par des choses plus récentes et que des fois, quand il y a des déconstructions, on retrouve des trucs qu'on a complètement oubliés.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, ça, c'est Agence Enquête. C'est un vieux projet ou une façon de vivre. De Guillaume aussi, c'est notre histoire, XYZ, c'est ça. Et puis avec Stéphane, on s'est retrouvé là-dessus aussi.
On retrouve d'ailleurs dans l'expo ces grosses lettres qu'on pouvait avoir à vendre sur certains magasins ou certaines boutiques, des choses immenses là, je sais pas, en matière métallique j'imagine, je sais pas, ou en plastique. Il y en a quelques-unes qui sont exposées.
Les à vendre, etc., c'est issu plutôt de caractères en bois et d'affiches.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire grand. Mais on a fait de nous-mêmes. C'est aussi le principe du collectif, c'est qu'on n'est pas vraiment scénographe, on n'est pas vraiment typographe, on n'est pas vraiment plasticien, mais on est un peu illustrateur, enfin on est un peu tout. On est un peu brestois, quoi. bref.
On est bon à tout, bon à rien.
Ouais, c'est ça. Plasticien. Voilà. C'est un peu l'idée. Et l'idée, c'est toujours de faire soi-même, en fait. C'est pour ça que c'est grand et que ça a été fait à la main, en fait. Et que c'est pas du plastique. Pas que du plastique. Il y a un peu de plastique, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est fait à la main.
Ça a pris combien de temps à monter l'expo?
Montage.
C'est la folie.
Montage, je ne sais plus.
3-4 semaines.
Mais même semaines. Mais même la conception de...
Ça a mis 2 ans.
Bah oui, c'est ça. C'est, ouais. Parce que c'est...
Hein, 2 ans et demi.
Deux ans et demi, ouais.
Entre le moment où on en a parlé la première fois, oui, et la réalité.
Oui, largement, ouais.
Mais
et on remercie d'ailleurs Gabi.
Oui, le confinement aussi qui nous a donné un bon. Le premier confinement a été un bon moment de travail. On a beaucoup échangé, beaucoup travaillé à ce moment-là aussi. Ça a été.
Alors moi, je vous conseille vraiment si vous avez des enfants, d'amener vos enfants s'ils sont en âge. Même à petit âge, parce que c'est vraiment tellement coloré aussi, tellement graphique que ça doit forcément les intéresser, les éveiller. Il y a même des petits livrets-jeux qu'ils pourront récupérer, hein, s'ils veulent s'occuper, une sorte de travailler la mémoire. Est-ce qu'ils ont remarqué des petites choses? Regarde, Rémi, est-ce que tu as remarqué là le nombre d'autocollants de radio qui sont...
Alors, je connaissais laser.
Mais d'où viennent ces autocollants?
Oh, le Zodiac. Ça, c'est... Ouais, chez moi.
Et donc, voilà, plein de petites choses très, très sympas et c'est bien imaginé et c'est vraiment constructif. Toi, tu dois avoir plein de questions parce que tu étais à l'expo aussi.
Oui, j'étais. On s'est croisés hier, effectivement. Moi, il y a quelque chose que je me demandais. Ça pouvait être un peu difficile, je pense, de mettre ça dans l'exposition, mais est-ce que ça peut rentrer aussi? Je pense aux façades de murs de certaines maisons où parfois il y a des typos géantes, en fait, qui c'était souvent des magasins qui mettaient leur pub, en fait, et c'est super vieux. On en voit quelques-unes encore sur Brest, je crois, mais ça rentre dedans aussi.
Souvent, c'est un peu de l'alcool, quand même. Ou de l'essence, parce que ce qui est sensiblement la même chose.
Exemple, Place Guérin avec bière.
Oui, par exemple, voilà, exactement. Bière, c'est un peu le truc qu'on retrouve encore un petit peu, quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est un monde, la peinture en lettres, enfin, on va dire. Ouais. C'est un monde qui a presque disparu, mais. On travaille notamment avec Morgane souvent. C'est aussi une Z, puis toi aussi. Enfin voilà, et qui est peintre en lettres. Et voilà, qui a réappris le métier en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et qui le fait très très bien. Et puis maintenant, les gens sont plutôt que d'aller acheter du vinyle et du plastique ou de faire découper au plotter son truc, ça vaut le coup peut-être d'avoir quelqu'un qui peint voilà, qui peint sur les murs, et ça durera bien plus longtemps, comme dire. Voilà.
Ouais, c'est tout aussi rapide, c'est efficace, ça coûte pas trop cher. Enfin, voilà, c'est un bon moyen de faire, de communiquer, de d'écrire soi-même, de peindre soi-même sur les murs. Et on en voit de plus en plus de nouvelles enseignes qui sont faites en peinture.
Même à Brest.
Ouais. Ouais. Alors moi, j'aime bien l'ancien. Est-ce qu'il y a des villes qui ont, je ne sais pas, depuis longtemps, pris une politique, par exemple, pour préserver ce genre de, ouais, ce genre de, non, d'héritage?
C'est quelque chose qu'on préserve très peu. Ben, pensons à l'endroit où a été construit le métro de Rennes, place Sainte-Anne, où il y avait une très très grande publicité que tout le monde a connue dans les années 90-2000. On voyait bien du bon, du beau, du bonnet, très très grande, gigantesque, et qui a été abattue. On ne les préserve pas comme un vrai patrimoine encore aujourd'hui. La publicité, c'est la publicité. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans l'histoire de la typographie. On connaît beaucoup de choses sur les lettres, sur la typographie pour les livres, mais très peu de choses pour la typographie pour les affiches, et notamment les lettres en bois, où on a un peu oublié d'écrire l'histoire. On ne sait pas où elles étaient fabriquées, on sait peu de choses en fait sur ce matériau-là et sur ces lettres-là, qui sont pourtant bien particulières, spécifiques à la publicité. Et on l'a oublié parce que c'est pas sérieux, la publicité, c'est pas sérieux. Donc pour que ça devienne vraiment un patrimoine et qu'on commence à le préserver comme on préserve par exemple les entrées de métro aujourd'hui à Paris, il faut qu'il y ait une vraie idée que c'est un patrimoine.
Et je dis ça parce que j'ai eu la sensation, pas dans des villes, mais plus dans des villages, par exemple, où il y a des vieux termes, des choses comme ça, avec une certaine volonté de garder ou de les remettre en valeur, ces anciennes devantures, peut-être, ça a un petit côté suranné, mais en même temps, ça fait, j'ai l'impression que c'est un peu parti d'une sorte de politique touristique de.
Oui, mais c'est souvent de certains... des particuliers qui vont le faire. C'est pas quelque chose d'étatique ou de muséal ou de patrimonial au niveau.
Ouais, il reste
au niveau où on l'entend. Voilà.
Il reste comme cette idée de stratigraphie où en fait on abat les choses, on les refait. Et puis y a un moment où effectivement on le voit dans certaines villes qui ont un peu plus peut-être envie de leur patrimoine ou le préserver ou le faire vivre. Honnêtement, le fond de la Pâme aujourd'hui, il est gigantesque. En lithographie, je pense que c'est la deuxième, je crois, en France, serait-ce qu'en Europe. Et pour arriver à un musée comme celui de Nantes, où toutes les machines fonctionnent, où les gens sont là, etc., c'est aussi 30 ou 40 ans d'efforts, enfin, qui sont gigantesques. Mais ça fonctionne. Et donc, on peut encore... on peut en faire quelque chose, quoi, largement.
Et avant l'heure, avant l'époque, maintenant, où tout est stocké sur des disques durs, justement avant des BAT, machin, les originaux, la PAM avait conservé, en fait, historiquement, tout, un exemplaire de tout ce qu'ils ont produit.
Je pense que
ils conservaient les pierres. Les pierres étaient des maquettes, en fait.
D'accord,
c'était pas les pierres qui servaient à imprimer, c'était des pierres qu'on stockait pour pouvoir les recopier sur d'autres pierres, pour pouvoir en faire les étiquettes. Donc en fait, ils ont une bibliothèque, mais de pierres.
D'accord.
Très lourdes et très épaisses.
Ils n'ont pas gardé de tirages, quoi.
Ils ont gardé des tirages aussi, qui sont dans des cahiers de pelure numérotés. Et donc chaque numéro fait référence à une pierre. Et les pierres sont 6 cm d'épaisseur. Donc vous voyez un peu la place que ça prend.
Alors, à travers l'expo, on apprend aussi plein de choses sur les fontes, sur les écritures en elles-mêmes, parce que il y a des histoires en fait qui sont liées à un type d'écriture. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça, on le voit beaucoup à travers l'expo aussi. On voit aussi que c'est selon les périodes, avec des formes qui vont être plus mis en avant, plus utilisées, plus à la mode. Ouais, c'est assez étonnant.
Il y a des sortes d'éternels.
Ouais, des choses.
Les Garamond, les Ido. Enfin, Stéphane, tu en parleras mieux que moi, mais c'est des choses qui datent du 16e siècle.
Et il y a un code, justement, des fontes, là, quelque chose d'officiel, ça s'est mis en place de façon un peu chaotique, progressive.
Non, c'est pas comme pour les mots où, par exemple, Alain Rey a fait un dictionnaire où il raconte l'histoire de chaque mot. On pense à lui aujourd'hui. On n'a pas de grand dictionnaire de toutes les fontes. Chaque fabricant fabriquait son catalogue des lettres qu'il avait à vendre. Mais ça a toujours été une activité commerciale. Donc on fait un catalogue pour vendre des choses à quelqu'un. Mais pas de catalogue répertoriant une sorte d'ensemble commun au monde entier de toutes les lettres. Et surtout aujourd'hui, c'est exponentiel parce qu'en fait, chaque pays, chaque langue a ses spécificités, ses accents et donc une façon d'appréhender la typographie différente. On n'aime pas les mêmes lettres dans tel pays que dans tel autre, même si aujourd'hui on a un monde mondialisé, on a encore des spécificités locales qui font que dans telle ou telle ville, on va voir fleurir tout un tas d'alphabets qu'on ne verra pas fleurir dans une autre ville qui les trouvera soit olé olé ou soit pas sérieuse ou soit trop sérieuse. Et donc en fait la typographie c'est une histoire de mode et une histoire d'envie et de plaisir qu'ont les gens à lire des mots dans certaines formes
typographiques. C'est aussi une histoire de code aujourd'hui.
Ouais, c'est, oui.
D'où Unicode. Mais ouais. Voilà le petit film qui est présenté dans l'expo.
Ouais, on a
qui montre l'ensemble des caractères, il y en a, je ne sais plus combien,
plus 66
000 en 20 minutes et ils défilent à une vitesse cadencée pour montrer voilà, le standard Unicode en fait.
Et c'est marrant parce qu'on a ces images de voilà, on a parlé beaucoup des enseignes, les magasins, les bistrots, les cafés et les marques et même les groupes aussi derrière hein, ont l'importance en fait de la typo. Par exemple pour la musique, nombreux sont les groupes identifiés par le logo, souvent fait à base d'une typo spécifique, soit créée pour le groupe ou récupérée, je ne sais pas. Hein.
On pense aux groupes de métal qui ont beaucoup réutilisé, fait revivre les caractères gothiques qui étaient tombés en désuétude.
Ça, on le voit dans l'expo avec Motorhead, justement.
Les groupes de gothique rock, d'abord. Ouais, le groupe de métal, il y a le black metal avec ses dégoulinures, on ne comprend rien. C'est assez horrible.
On pense aussi au punk, et notamment ces fameuses pochettes des Sex Pistols avec les lettres découpées, où on est entre la lettre, le tracet qu'on gratte et qu'on vient coller sur le support. Voilà, on pense la musique et les groupes sont extrêmement liés à la forme typographique. On pense à un des albums de Dao où tout est typographique à l'intérieur. On pense aujourd'hui, il y a toujours Yael, par exemple, dans son dernier album, où il y a une sorte de Y qui est de la typographie aussi et de logo. Les groupes ont toujours fait appel à la typographie et dans la musique, il y a une vraie utilisation, réutilisation et surtout imagination d'utilisation de la typographie. On pense à utiliser des typos qui sont des fois désuètes pour les réinstaller dans la musique.
Un peu comme ces écritures un peu digitales pour des choses en synthwave, ce qu'on appelle la synthwave ou... je sais pas, Kraftwerk avait dû utiliser aussi ce genre de choses.
Ça marque pas seulement des époques, mais ça marque aussi une identité.
Et là, c'est étonnant. J'ai l'impression qu'on voit aussi des choses complètement inversées avec, par exemple, des groupes qui vont utiliser peut-être typo plus couleur métal, enfin, plus typé pour un groupe de métal, on en parlait hier, mais qui ne font pas du tout du métal. Et inversement, il y a un changement aussi.
C'est le jeu justement de la typographie. C'est que quand on plonge le nez dedans, c'est pour ça qu'on a aussi mis un S entre parenthèses. C'est que quand on plonge dedans, on ne peut pas vraiment s'en sortir, en fait.
À part si on est
suisse-allemand, mais on n'est pas très suisse-allemand, nous.
C'est comme la mode. C'est comme des gens qui font du hip-hop et qui s'habillent en costard, ou des gens qui font de la musique classique et qui vont s'habiller avec des blousons en cuir. Enfin, voilà, on utilise et réutilise les codes, et c'est un fonctionnement d'image, en fait, de donner une image à travers la typographie ou la mode.
C'est le pouvoir de la lettre. Le C, par exemple, de Coca-Cola est assez évocateur. On peut le retrouver détourné, etc. Mais on pense tout de suite quand on voit justement cette lettre, un dessin. Finalement, il y a une force, un impact qui est là et qui fait qu'on a des associations d'idées qui s'opèrent tout de suite.
Oui, bien sûr.
Mais oui, après, justement, ce qui est intéressant dans le fond de la PAM, c'est que quand on est un peu vieux comme nous, quand on se projette justement sur les Sirojaki, on sait que Carantec, c'est pas Carantec.
Crarantec.
Crarantec, pardon. Crarantec. voilà, c'est aussi plonger là-dedans. Et ça, c'est aussi une c'est formidable, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de mettre en valeur à notre mesure. Mais,
C'est vrai que j'ai découvert ça justement pour revenir sur ces fameuses étiquettes qui étaient peintes à la main, donc des vrais travaux d'artistes. C'était des salariés de la PAM, par exemple, qui faisaient que finalement. Bien donc ils embauchaient des artistes en fait qui étaient salariés pour.
En fait, la rue Pasteur où était la PAM, où est toujours la PAM. Hein, la rue Pasteur, malgré l'enseigne, la PAM est toujours là. La rue Pasteur c'était la rue principale en fait. C'était la grande rue de Brest où il y avait tous les imprimeurs, les graveurs et les graveurs. Donc en fait il y avait les imprimeurs, les graveurs, donc il y a toute une histoire qui sera magnifiquement racontée par Grégory Lebris, bien plus que moi, ou par Stéphane Hervé, ou par monsieur Y, mais cette rue là était bondée d'imprimeurs, c'est à dire que tout le monde imprimait, enfin vos cartes de visite que vous faites sur n'importe quel site un peu moche, bah, là vous alliez à la PAM, vous alliez dans tel ou autre. Donc c'est vraiment le cœur de la ville, puisque c'était vraiment la rue centrale de Brest. Et on était au cœur de tout, des échanges, du commerce donc, d'où les étiquettes, etc. Et puis les entêtes, ce qu'on appelle le bilboquet en fait, il me semble. Hein. Mais tout ça était au cœur de l'activité économique et culturelle, évidemment, puisque il y avait évidemment de grands
artistes. Et c'est pas si vieux que ça, parce que j'ai encore souvenir moi de passer par la PAM pour imprimer mes vrais billets de concert dans les premiers concerts que j'organisais il y a quelques longues années déjà, mais c'est vrai que ça, le changement a été l'évolution a été très rapide ces derniers temps quand même. Hein.
C'est assez brutal, mais c'est brutal pour beaucoup, pour toute la profession entre guillemets de l'imprimerie. Hein. C'est pas nouveau non plus, mais là il y a quelque chose en fait. Il y a de la pierre, déjà. Elle est lourde.
Elle est lourde. C'est quand même 100 ans d'histoire.
C'est ce qu'on se disait. Il envoyait les morceaux. Je dis, waouh, ça doit faire un poids.
Et elle a été mise en avant déjà par un travail de recherche entre l'UBO et les SAB, etc. Autour de ces étiquettes de vin, autour du commerce. Mais il y a encore plein de choses à faire et je pense qu'il y a sans doute des étudiants ou des chercheurs qui vont venir fourrer leur nez là-dedans, dans les caractères en bois, ce qu'on a fait avec Guillaume et les SAP. On a essayé de faire un petit inventaire, un tout petit inventaire de quelques étagères de caractères en bois et de les imprimer. Je sais pas, ça nous a pris combien de temps, Guillaume, déjà
Oh, je sais plus, au moins 3 séances, 3 jours pleins.
Ouais.
Vous avez tout réimprimé pour tester, voir ce que ça
fait. Ouais. Mais c'est seulement quelques étagères, c'est vraiment au fond du fond. honnêtement, voilà. Les caractères en bois, en plus, ils sont particuliers parce que on n'achète pas vraiment de typographie. Il y a certaines qui sont faites, on voit encore les coups de gouge, en fait, enfin les coups de gravure.
Qui sont faites à la main.
Recollées. Voilà, on sait que ça vient de Bressuire, mais pas. Un peu de, on connaît un peu les fontes, mais le caractère en bois, c'est encore un autre.
Ça se conserve dans le temps, ça ?
Ah bah,
c'est incroyable. Ils ont déjà 100 ans. Ah ouais. Mais ce que ça montre aussi, cette histoire de la PAM, c'est à la fois une histoire artistique à travers tous ces artistes, mais c'est aussi une histoire économique. Et en période comme aujourd'hui, où on parle beaucoup d'économie, on voit bien que l'économie, c'est quelque chose qui se transforme, qui évolue et qui change en fonction des moments. Et le grand commerce du vin à Brest et du rhum, de tous ces alcools qui arrivaient par le port et qui ensuite étaient mis en bouteille et sur lesquels on devait coller des étiquettes, c'est ça qui a créé le fait qu'aujourd'hui on ait ce patrimoine artistique. C'est qu'en fait on a commandé aux artistes des choses pour faire du commerce. Et c'est là que ça relie vraiment l'histoire économique avec l'histoire artistique. Les deux sont complètement liés.
C'est l'atomique.
Tu vois, je t'avais dit, Rémi, tout vient du rhum.
Ou du pinard, avec le fameux pinardier, plutôt.
Ouais. L'atomique, ouais. L'atomique.
Mais en tout cas, on vous incite à aller voir cette expo. On rappelle qu'elle est en place jusqu'à au moins, minimum, la fin du mois d'avril prochain.
2022,
c'est repoussé, c'est ça?
Officiellement.
C'est génial.
Nous le décrétons.
Et ben voilà. Et que l'endroit est cool, que c'est gratuit, qu'on peut y aller aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Médiathèque, donc après le confinement.
Ben oui, non, mais bien sûr, mais c'est important de rappeler parce que et puis prenez votre temps et puis elle est vraiment à recommander au plus petit au plus grand, elle s'adresse à tout le monde. Il y a ce côté en effet alors c'est ni trop simpliste ni trop enfin c'est suffisamment clair et attractif pour intéresser parce qu'on peut lire beaucoup beaucoup de choses hein. Mais comme je disais, on apprend des termes incroyables. Moi j'en revenais pas là. Les petites comment ça s'appelle, c'est
Les filets anglais,
là, entre deux paragraphes.
Les fleurons aussi.
Je n'aime pas que ça s'appelait comme ça. Moi. Enfin bon, je trouvais ça génial. Et puis, ça donne vraiment envie. On va faire une petite pause musicale. Alors, pourquoi Motorhead ? Ben, Motorhead, parce qu'il y a un petit clin d'œil à Motorhead dans l'expo, à travers... on parlait justement de l'importance hein, de la typo pour certains groupes. Et Motorhead en fait partie. Ils ont, je pense, toujours gardé le même logo et donc la même écriture même maintenant, parce que la preuve, c'est que on va écouter le morceau de cet album qui a 40 ans actuellement, donc qui ressort en coffret. D'ailleurs, Ace of Spades, qui est un
tu vas pas le chanter cette fois-ci.
Non, je chante pas, je passe l'original. Mais ma version était meilleure hier. Je tiens à le signaler. Vous êtes toujours en direct sur Radio et Fréquences Mutines pour ce Stud Radio, nouvelle édition, émission bimensuelle qu'on retrouvera, on ne sait pas quand, mais un peu plus tard, hein, quand on aura le droit de se retrouver. Et on est toujours avec nos invités, le collectif X, Y et Z, donc, qui vous propose cette expo typo du côté de la médiathèque François Mitterrand
au Capucin. En place un long moment. Vous avez tout le temps d'aller la voir. Et allez-y, parce que ça vaut vraiment le déplacement. Ça va peut-être donner des envies, je pense. Et c'est vrai que ça, même on se graphie. Moi, par exemple, ça m'a donné envie de me dire oh, mais t'as vu ça, regarde, exposé comme ça, tu peux refaire ton intérieur, tu peux imaginer des décos chez toi avec des choses auxquelles tu pensais pas. C'est vrai, hein, et c'est génial en fait. Là,
On me dit non.
Comment ça,
je pense que ta chérie n'est pas d'accord.
Bah si, moi franchement je trouve...
On a un peu posé les pinceaux, mais bon voilà, on voudrait pas arrêter de les poser, mais voilà, on va se mettre au travail, je pense aussi, l'idée c'est aussi de peut-être de voilà d'exporter un peu cette exposition un peu partout, ce qu'on a essayé de faire avec le Razzle Dazzle aussi, voilà, c'est des sujets qui apparemment emballent les gens, enfin emballent, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui intéressent les gens, ce qui est pas... Et puis dans chaque ville, si je vais à Châteauroux, je peux aller trouver aussi un fonds patrimonial de fou sur telle ou telle chose, etc. Et donc, on peut aussi faire des safaris typo, on peut faire plein de choses autour de la typographie. Ouais. Et ça, c'est pareil partout, en fait. On peut aller n'importe où. Et c'est un peu notre but aussi, c'est aussi de, même si c'est un peu bizarre, mais on a eu re-envie de bouger aussi depuis qu'on a été à Vitry, parce qu'on a fait des super rencontres, on a super bien travaillé là-bas, on était comme chez nous, alors que voilà, c'est pas tout à fait le même milieu ou environnement. Il y a un peu moins d'horizon, il y a beaucoup autant de grues qu'ici, mais presque. Mais c'était super, et moins de bistrot. Mais c'était super. Voilà, c'est un peu notre envie, je pense, à nous trois, c'est de continuer et puis de faire évoluer la chose.
Qui vous a aidé à monter cette expo? Parce qu'on imagine quand même que ça demande un peu d'investissement, parce qu'il y a eu pas mal de supports qui sont imprimés, il y a pas mal de choses qui sont proposées. C'est peut-être intéressant d'en parler.
Ils sont nombreux, commencer par évidemment la famille de Brice et la PAM pour le fond, enfin c'est vraiment le contenu,
le cœur, hein, c'est voilà, le cœur, hein.
Et après évidemment tout le réseau de médiathèques et l'ensemble de ces acteurs, et notamment aussi Gabi qui est le régisseur,
on remercie beaucoup
parce que voilà, il faut nous supporter aussi, hein, en montage c'est pas facile des fois, donc merci beaucoup à lui. Et puis, y a beaucoup de gens
qui ont participé, qui ont prêté des choses, des objets. Voilà, on a glané tout un tas de choses tout autour de cette exposition, du vieil ordinateur des années 80 à ce petit objet en bois qui servait à mesurer combien il y avait de lignes dans une page. Donc on a cherché tout un tas de petits objets, de choses, de collections qui pouvaient participer à notre propos sur l'histoire de la typographie.
Et puis cette expo, c'est un peu on fonctionne toujours pareil au niveau du collectif. Hein, je pense que Guillaume ne contredira pas. C'est une avancée. Enfin, c'est toujours des petits pas en fait. Donc évidemment, on est obligé de remercier des gens qui nous ont aidés avant et qui nous aideront peut-être après, s'ils le peuvent, je suppose. Notamment le musée de la Marine, enfin la direction du patrimoine à Brest. Il y a plein de choses, on essaie de faire plein de choses. Après, c'est des fois un peu plus compliqué, mais bon, ça marche, on a réussi. Enfin, je pense.
En tout cas, le résultat est plus que réussi, je trouve. Il faudra y aller. Hein, Antoine, toi, t'as pareil, t'étais pas mal bluffé, hein?
Ouais, moi, j'étais vraiment bluffé. Et moi, en fait, il y a vraiment un truc qui m'a impressionné. En fait, c'est l'incunable qui est comme tu disais, sous sa cloche là. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de cet ouvrage, en fait.
Il y en a deux, hein.
Ouais, il y en a deux. Ouais. De quand ils datent, qui les a écrits, qui les a créés?
Alors, ils tournent ces livres-là. Il y en a une dizaine qui sont dans la collection de la bibliothèque. Et qui sont très précieux. On va les faire tourner parce qu'on ne peut pas les laisser trop longtemps à la lumière.
À la lumière, ouais.
On ne peut pas non plus les ouvrir complètement. Ils sont un peu comme pré-ouverts. Ces livres-là, en fait, la particularité des incunables, ce sont tous les livres qui ont été imprimés entre l'invention de Gutenberg et 1500. Donc, c'est les 50 premières années de l'histoire du livre. Et donc, ces livres sont très anciens et font appel à la technique et la technologie de cette époque qui est l'invention de la typographie. qu'a inventé Gutenberg. Et donc, on les nomme sous cette forme-là. Et donc, à Brest, ils en ont une petite collection de quelques-uns. Il y en a quand même beaucoup qui ont été imprimés, parce que quand Gutenberg a créé la typographie, la technologie s'est diffusée à travers les ouvriers qui quittaient l'Allemagne et pour aller dans d'autres régions, notamment vers l'Italie et toute la France, pour imprimer des livres. Et donc, on en connaît quand même pas mal. Je ne saurais pas dire le chiffre, mais il y en a beaucoup des livres de cette époque-là.
Alors justement, les deux ouvrages qui sont présentés, c'est quoi ?
Alors, je ne peux pas vous dire, parce que comme il tourne, je ne saurais pas vous dire lequel.
Moi, je te coupe, Stéphane. Moi, j'avais eu une petite information, mais alors c'est vraiment un détail. Il y en a un des deux qui a été, fabriqué à Loudéac. Et il y a eu très peu d'exemplaires. C'était le premier bouquin fait en Bretagne. Je crois que c'est celui de gauche. Il faut vraiment prendre cette info sur des pincettes. Ouais. Et il y a eu plusieurs exemplaires de faits en Bretagne par la suite. Un à Rennes, un à Tréguier, je crois. Un dans le sud Finistère. Et à Brest, ça a été bien plus tard, au XVIIe siècle, qu'il y a eu le premier bouquin. Et je saurais, au niveau du contenu, je serais incapable de te dire.
C'est écrit en vieux français ou en latin. J'ai essayé de lire, je suis comme assez doué normalement, hein, pour tous les niveaux, mais là j'ai eu un peu de mal.
Il n'y a pas assez de lumière, c'est ça.
Ouais, voilà, c'était sans doute ça.
Il y avait 50 lumières.
Mais,
tout à fait.
Mais c'est
rassurant qu'il n'y avait pas trop de lumière.
Ouais, c'est plutôt rassurant.
Mais allez-y, prenez votre temps, en tout cas dès que vous pouvez, et puis ça vaut le coup, et puis c'est super chouette que ce soit dans la médiathèque, parce qu'on reste autour de ce monde de la lettre, du livre, de l'écriture et tout ça, et c'est parfaitement cohérent avec tout ça. Ben, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez déjà des projets derrière un peu là, ça cogite, ça, le collectif a déjà d'autres envies?
On n'est jamais très on a toujours envie de faire des choses, hein, c'est pas nouveau. Là, on est en train de parfaire notre parcours à Vitry et de le finir, le mettre en place. Et puis ensuite, on va voir. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais
suite au prochain numéro.
Ouais, je sais pas.
Ouais, pour le collectif, il y a ce spécimen. Enfin, un spécimen, c'est ce qu'on appelle une présentation d'une police de caractère qu'on a inventée là-bas. Donc, c'est quoi ? C'est un achat public, c'est ça ?
C'est une commande publique.
Elle va s'appeler comment ?
C'est Vitriote.
Vitriote, c'est ça, ouais.
Elle s'appelle. Elle existe.
Elle sera utilisée par la ville, la mairie
Par tout le monde.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ce sera, ouais.
Sinon, en termes de projet, peut-être la façade de M. Stéphane Hervé qu'on va faire.
Ouais. Ah. Peut-être.
Il y a des chances.
Si on a le temps. Il y a des chances qu'on la fasse.
Mettre quelque chose à carré. Ouais.
Ce sera le bon temps du façadisme. Encore de retour.
Non, c'est vrai que ça s'estompe là un petit peu. On va voir par la suite, mais voilà, c'est un peu la flip pour les artistes.
On va se cacher, c'est l'hiver. On va attendre les beaux jours. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Merci d'être venu à la radio.
Merci.
On va se quitter, les 14h. C'est la fin de l'émission.
Tout à fait, c'est la fin. Et on se retrouvera
un jour.
On ne sait pas.
Bientôt. En tout cas, sur les ondes de Mutine, logiquement, dès demain. Je ne sais pas si ce sera en direct de la radio ou en direct de la maison. Pour Radio U, je ne sais pas comment vous allez gérer non plus. On se tient au courant, de toute façon. Et puis, on vous retrouve tout bientôt. Allez, ciao, ciao. Bye,
salut,
bye.
Merci.